Radio Kapi. Oh, Kapi. Les journaux, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le président de la République, Félix Tshisekedi, annonce un investissement de 1,258 milliards de dollars américains destiné au corridor de Lobito. C'est ce qui ressort de la rencontre hier mercredi à Kinshasa avec son homologue angolais, João Lourenço. Les abonnés des réseaux de télécommunications de la ville de Kananga dénoncent la hausse du prix de certains forfaits avec une connexion très instable à Kinshasa. Pendant ce temps, le ministre a visité des équipements acquis récemment. Une descente sur terrain qui n'a pas satisfait la nouvelle société civile congolaise qui s'est dit très déçue. Déjà plus de 100 jours depuis la reconnaissance officielle de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Ce sujet a intéressé l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. Vous suivrez à la fin de cette édition un extrait des interventions. Jeudi 27 août 2026, vous êtes sur Radio Kapi, vous avez raison. Mesdames, Messieurs, bonjour, corridor de Lobito. Pour commencer, Félix Tshisekedi annonce un investissement de 1,258 milliards de dollars américains. C'est ce qui ressort de sa rencontre avec son homologue angolais, João Lourenço, hier mercredi, ici à Kinshasa. Objectif, moderniser la ligne ferroviaire d'Ilolo-Sakania. La signature de ce contrat de concession va aussi permettre à ce projet d'infrastructure de rentabiliser un axe de transport névralgique reliant le sud-ouest au sud-est de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec vous, Blaise Nongala Mayanda.
La mise en service de la ligne d'Ilolo-Sakania facilitera l'évacuation efficace des produits miniers et des marchandises vers l'océan Atlantique via le port de Lobito en Angola en réduisant drastiquement les délais de transport vers les marchés internationaux. Elle offrira également une alternative ferroviaire directe et moins coûteuse que les transports routiers ou les routes maritimes de l'océan Indien. Sur le plan social, cet axe générera des milliers d'emplois directs et indirects durant les phases de modernisation, de maintenance et d'exploitation ferroviaire. Il revitalisera les commerces locaux le long du tracé d'Ilolo, Kolwezi, Teke, Likasi, Lubumbashi et Sakania en facilitant les transports des produits agricoles et les déplacements des populations. Sur le plan infrastructurel, la ligne ferroviaire d'Ilolo-Sakania positionnera par ailleurs la RDC comme un carrefour logistique majeur en Afrique centrale et australe. La relance de ces tronçons ferroviaires s'inscrit dans le cadre des efforts d'intégration régionale et de développement économique transfrontalier soutenus par les gouvernements congolais et ses partenaires internationaux.
Et dans ce même registre, 9 jours après la reprise du trafic gare centrale aéroport, les Kinois, surtout les habitants du district de la Tiangou, à l'est de la capitale, s'habituent une fois encore avec le train. Un moyen de transport qui leur permet d'arriver rapidement au centre-ville. Hier mercredi, par exemple, ils ont été très nombreux à effectuer ce trajet qui ne fait qu'une heure et 15 minutes entre la commune de Massina et la gare centrale à la Gombe. Face à cette forte affluence, le train peine désormais à transporter tous les voyageurs. Raison pour laquelle de nombreux Kinois appellent à une augmentation du nombre des rotations. Des détails dans ce reportage d'Askin Zigbia Tayoro.
Bien que des milliers d'habitants de la Tiang aient pu effectuer le déplacement rapidement jusqu'à la gare centrale, de nombreux autres passagers n'ont pas trouvé de place à bord du train. Toutes les voitures étaient bondées. Même dans la voiture de première classe où le billet est fixé à 4000 francs congolais, plusieurs passagers ont dû rester debout durant tout le trajet. Dans les 6 autres voitures accessibles au tarif de 2000 francs congolais, l'affluence était tout aussi importante. Le voyageur réclame ainsi la multiplication des rotations du train urbain afin de desservir davantage de passagers.
Nous voulons qu'on organise 2 tours des rotations. Même si je rate le premier tour, je peux me rattraper au 2e tour. Mais un seul ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui sont restés derrière, qui attendent le train.
Le chef de train de l'ONATRA affirme comprendre des préoccupations exprimées par les voyageurs. Santos Nguizani rassure toutefois que l'entreprise travaille encore sur plusieurs préalables techniques.
Suite aux ouvrages qu'on est en train de construire, dès que les ouvrages prennent fin, vous verrez d'autres locomotives. C'est par là la hiérarchie va songer qu'il y ait des rotations dans les avant-midi et des rotations dans les après-midi.
Avec la reprise du trafic ferroviaire urbain, les passagers doivent désormais faire preuve de ponctualité. À chaque arrêt, ils se pressent pour ne pas manquer le train qui quitte ses stations à l'heure prévue et n'attend aucun retardataire.
Dossier télécommunication à présent, qu'est-ce qui se passe avec le coût de la connexion Internet? En tout cas, son prix augmente de plus en plus. Nous parlons du seul cas du Kasaï central. Le coût de la connexion Internet fait grincer les dents. Depuis quelques jours, des abonnés des réseaux de télécommunications de la ville de Kananga dénoncent la hausse du prix de certains forfaits. Ils se plaignent aussi d'une connexion souvent instable. Situation qui inquiète particulièrement les jeunes, les étudiants et les entrepreneurs. Le conseil régional des ONG de développement appelle ainsi les autorités à intervenir. Le point avec André Katendenga Lamouloumé.
Se connecter à Internet devient de plus en plus coûteux pour la population du Kasaï central. Dans les rues de Kananga comme dans les points de vente, les plaintes se multiplient. Certains abonnés dénoncent la hausse du prix des forfaits. D'autres pointent surtout leur courte durée de validité. Joyce Chibouaboua témoigne.
Avec 50 unités, on vous donne 1 gigabyte qui expire à 23h59. On ne profite même pas de ces forfaits parce que la connexion est bizarre.
Cette situation pèse sur le quotidien des usagers. Pour les étudiants, l'Internet est indispensable pour leur recherche. Du côté des entrepreneurs, c'est aussi un outil de travail. Freddy Kalombo est commissionnaire dans la vente et la location des maisons et des parcelles à Kananga.
Nous autres ici, nous vivons sur base de nos téléphones ou des moyens de communication. On se retrouve déjà coincé, on ne sait plus quoi faire. C'est une façon un peu de nous étouffer.
Face à ces inquiétudes, le conseil régional des ONG de développement, le CRONG Grand Kasaï, appelle les autorités compétentes à réagir. L'organisation demande aux opérateurs de télécommunications de mieux informer leurs abonnés avant toute modification des tarifs ou des conditions d'utilisation. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, pendant ce temps, le ministre des Postes et Télécommunications est allé visiter des équipements acquis installés par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. C'était justement dans la perspective de résoudre la problématique de la mauvaise qualité des services de communication par téléphonie mobile. Problème constaté et déploré par l'ensemble de la population et établir en même temps les responsabilités de toutes les parties prenantes de l'écosystème des télécommunications en République démocratique du Congo. D'autres détails avec vous, Jocelyne Moussaou.
Selon ses communiqués, cette visite a permis au ministre José Mpanda de suivre la démonstration détaillée du fonctionnement de ces équipements qui offrent une vision globale et précise des opérations réalisées en presque temps réel par les différents opérateurs des télécommunications. Grâce à ces outils modernes, l'ARPTC, qui est responsable de la qualité de service des télécommunications, disposera désormais les moyens d'accéder aux données des opérateurs, de les traiter et de les diffuser auprès des décideurs. Ces équipements, parmi d'autres acquis dans la foulée, renforcent ainsi les capacités de régulation de la RPTC et contribueront à une application plus rigoureuse des obligations contenues dans les cahiers des charges des opérateurs. Ils permettront notamment de constater objectivement les éventuels manquements et, le cas échéant, de déterminer les sanctions ou pénalités appropriées conformément à la réglementation en vigueur.
Et par ailleurs, cette visite du ministre des Postes et Télécommunications n'a pas fait que des erreurs. Les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise s'est dit déçu. Pour Jonas Tchombela, l'opinion pensait que par cette visite, la qualité des services qui sont rendus à la population congolaise par les multinationales des télécommunications pourrait s'améliorer. Selon lui, rien n'est sorti de tout cela. Il appelle les autorités à se pencher sérieusement sur ce problème qui perturbe la quiétude des Congolais. Jonas Tchombela est au micro dans les Hirung.
L'opinion pensait que par cette visite, la qualité des services qui nous sont rendus par ces maisons de communication pourrait s'améliorer. Mais rien n'est sorti de tout cela, à la lumière même du communiqué qui a été publié par le service du ministre des Postes et Télécommunications. La population congolaise, les consommateurs congolais sont restés sur leur soif. Et la qualité des services, aucun espoir à ce jour que nous pourrions améliorer nos communications, le coût, les perturbations qui sont observées, même s'il y a des esquisses, ça ne répare rien. Donc, nous attirons l'attention des autorités de la République que le peuple congolais a droit d'avoir des produits de bonne qualité parce que ce sont des services qui sont rendus moyennant des milliers de fonds. Ça nécessite quand même qu'il y ait un regard des services attitrés.
Autre chose à présent, la rentrée scolaire pointe à l'horizon. C'est dans moins d'une semaine et à Bandundouville, elle est maintenue au mardi 1er septembre 2026. La sous-prophète de l'éducation de Bandundouville, Bénédicte Aboukani, appelle les parents, les enseignants et les élèves à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une reprise effective des cours. Un récit de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
Dans un message adressé aux parents d'élèves et aux professionnels de l'éducation, la sous-prophète de Bandundouville, Madame Bénédicte Aboukani, insiste sur la nécessité de respecter le calendrier scolaire officiel. Elle invite les parents à préparer leurs enfants et à les accompagner pour une reprise des cours dans les meilleures conditions.
J'invite tous les parents de se préparer en conséquence puisque la rentrée scolaire pour cette année est prévue pour le mardi 1er septembre 2026. Il n'y a pas report. Je demande aussi aux enseignants de regagner le chemin de l'école puisque les activités scolaires commencent le 1er septembre 2026. Les inscriptions sont gratuites, on ne demande rien. Et les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes au marché de leur choix.
Parents, enseignants et élèves sont donc attendus dans les établissements scolaires dès ce 1er septembre pour le début de l'année scolaire 2026-2027.
Une date retenue aussi du côté de l'Itouri, la rentrée scolaire 2026-2027 y est donc prévue pour le 1er septembre 2026. Et cela malgré la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Toutefois, cette décision suscite de vives tensions et inquiétudes à quelques jours de la reprise. Les directeurs de la province éducationnelle de l'Itouri 1, Yvon Mouquet Abouassélé, a confirmé cette information dans un entretien accordé hier mercredi à Radio Capi lors de son séjour ici à Kinshasa. Et toujours à Kinshasa, certains parents expriment leur inquiétude à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Il s'agit de ceux habitant non loin du marché UPEN, l'Université Pédagogique Nationale. Et pour cause, la démolition de plusieurs boutiques est étale dans le cadre des travaux d'assainissement et des réaménagements du marché qui a entraîné la dispersion des vendeurs sur place. Du coup, l'achat des fournitures scolaires devient une difficulté pour ceux habitués à s'approvisionner dans ce marché. Prisca Kapinga, reportage.
Le marché de l'UPEN, d'habitude très fréquenté tant par les acheteurs que les vendeurs, se retrouve aujourd'hui déserté. Une mère de famille, également vendeuse dans ce marché, indique que les difficultés touchent aussi les commerçants. Selon elle, plusieurs vendeurs ont perdu leur table et disposent de moins de moyens pour renouveler leurs marchandises.
Cette année, ça sera difficile pour les enfants parce que plusieurs parents n'ont pas encore acheté les uniformes ni les cahiers, faute de moyens. Et même pour ceux qui voudraient acheter, n'achètent pas parce que les vendeurs sont éparpillés ça et là.
Face à cette situation, certains parents se tournent vers les supermarchés et d'autres commerces situés aux alentours de ce marché. Mais cette situation n'est pas accessible à toutes les familles, en raison notamment des moyens financiers dont elles disposent. Une mère de famille interrogée estime finalement que la rentrée scolaire de cette année risque d'être plus compliquée pour plusieurs parents.
En ce qui concerne les marchés, les prix n'ont pas forcément augmenté. Le problème se situe seulement sur l'endroit où l'on doit acheter.
Les parents sont donc obligés de s'adapter à cette nouvelle réalité pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants.
Ces lieux, il faut les souligner, présentent aujourd'hui un visage différent. Plusieurs espaces commerciaux ont été détruits et les marchands encore présents sont moins nombreux.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le PASTEF demande au gouvernement de respecter le calendrier électoral des prochaines élections locales, alors que nul décret fixant la date du scrutin ni celui fixant le montant de la caution électorale n'ont encore été publiés par l'exécutif. Le parti majoritaire à l'Assemblée vient de publier un communiqué dans lequel il assure que les prochaines élections locales devraient se tenir au plus tard le dimanche 17 janvier 2027. Il y rappelle aussi que le respect du calendrier électoral est une obligation légale qui s'impose à tous.
L'invité.
Déjà plus de 100 jours depuis la reconnaissance officielle de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Et des voix s'élèvent pour réclamer une mobilisation de toutes les instances afin de renforcer la lutte et la riposte contre l'épidémie. Ce sujet a intéressé l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. Écoutons un extrait des intervenants au micro de Dona Madimba.
Docteur Joseph Kakisingi, coordonnateur national des FORA, des ONG humanitaires et de développement CONAFOD, en sigle plateforme regroupant plus de 600 ONG réparties sur l'ensemble de la RDC. Nous sommes en train de conclure cette émission. Docteur, aujourd'hui encore, des acteurs continuent de proposer des solutions. Certains, la trêve humanitaire, d'autres encore, des financements importants et rapides. Ce soir, on veut encore vous entendre, selon vous, quelle est la vraie solution qui pourra mettre fin définitivement à l'actuelle épidémie de virus Ebola en RDC?
Pour moi, il y a deux choses. La première chose, tous les acteurs devraient prendre le temps de faire une introspection pour savoir ce qu'ils ont mis en place comme approche. Est-ce que c'est le maximum? Est-ce que c'est ce qui est le plus optimal? Et écouter toutes les autres propositions qu'ils n'ont pas daigné entendre. Et essayer de les approfondir, parce que dans l'équipe de riposte, il y a des grands scientifiques, il y a aussi des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Ils peuvent écouter toutes ces choses qu'on propose, les analyser et approfondir, si on ne peut pas voir quelque chose qui peut amener à inverser la tendance. Et la deuxième chose aujourd'hui, on doit prendre la grande décision d'écouter les communautés, d'accepter les approches qui donnent la centralité des propositions aux communautés et quitte à les voir comment les transformer sous forme scientifique, comment les intégrer dans ce qu'on fait. Si on veut vraiment aller vers commencer à aller vers la fin, voilà pour moi les deux choses qu'il faut faire.
Merci Dr Joseph Kakisingi. Gratien Irachan de Saint-Nicolas, député national élu de la ville de Bounia dans la province de l'Ituri. Vous continuez à mettre les doigts, selon vous, que c'est l'échec de l'approche, l'échec de l'État. Aujourd'hui, une fois encore, on veut vous écouter. Quelle est pour vous la solution, les procédures qui doivent être utilisés pour vaincre cette épidémie à virus Ebola?
Bon, il y a certains acteurs qui pensent, du gouvernement, qui pensent que non, bon, c'est l'insécurité qui est la cause de la résistance. Non, je l'ai dit même à Jean Cassé, c'est pas l'insécurité. Depuis qu'il y a épidémie à Ituri, je me réserve pour le cas de Nord Kivu, depuis qu'il y a l'épidémie à Ituri, il n'y a pas d'attaque des groupes armés. Donc les groupes armés, bon, je ne sais pas s'il y a négociation ou quoi, mais au moins les groupes armés ne bloquent pas la riposte. Donc c'est pour dire il faut pas commettre ça. Donc pour moi, il faut commencer d'abord par remettre de l'harmonie dans la coordination de l'épidémie à Ebola. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le ministre lui-même ne contrôle rien, pas grand-chose. Et quand vous voyez la communication des Jean Cassé, ce qui est de CDC Africa, quand vous voyez la communication des OMS, vous sentez qu'il y a un problème. Et donc le problème, c'est plus grand que les ministres de santé. Il faut plus aller à une dimension peut-être gouvernementale, une dimension multisectorielle pour pouvoir travailler sur cet aspect d'épidémie. Et donc, ça va prendre beaucoup de secteurs, comme le docteur est en train de dire dans ses studios, où on aura besoin d'autres ressources humaines qui peuvent réfléchir par rapport à la fin. Mais aussi, ce n'est plus question d'argent, parce que si on met de l'argent sans des personnes capables de gérer cette épidémie, on n'aura toujours pas de résultats. Je les rappelle encore, ou je les répète, en Ouganda, ils avaient 12 cas, ils ont mis fin à ces cas à moins d'un mois. Mais pourquoi chez nous, on avait 8 cas, aujourd'hui on est à 3 mois, on est à plus de 5500 avec plus de 2500 morts. En Ouganda, les 12 cas-là, ils ont eu moins de 2 morts. Donc, il y a quelque chose quand même qui échappe au gouvernement.
Merci à vous, Gratien Irachan de Saint-Nicolas. Papi Kasereka, chercheur et analyste des questions de crise et de conflits dans l'Est de la RDC. Que peut-on retenir sur l'ensemble de toutes vos recommandations sur la bonne manière pour mettre une bonne fois pour toutes fin à cet épisode d'Ebola RDC?
Je pense qu'en termes de recommandations, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que face à la situation actuelle, l'ère n'est plus aux certitudes solitaires des experts qui sont retranchés derrière leur blouse blanc, noir ou bleu. Il est important de mettre en place une approche holistique qui prend en charge l'ensemble des mesures. Parce que le problème n'est pas seulement en lien avec l'attrait. Non, il y a des problèmes de manque ou de faible écoute des communautés. Il y a des problèmes d'intégration des communautés il y a des problèmes en lien avec le respect des coutumes et des traditions, il y a des problèmes d'engagement communautaire. C'est tout ce travail qu'il faut faire.
Et c'était un extrait des intervenants de l'émission d'Alors entre Congolais d'hier mercredi au micro de Donna Madimba. Ce qui met un terme à cette édition préparée par Lievin Mbunga. Jean-Claude Siala a assuré la technique. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.